On est dans notre série « Transmettre la foi dans une génération chaotique ». Et c'est ce qu'on vit, ce défi comme chrétien de transmettre la foi dans une période de notre histoire. Et ce n'est pas la seule, évidemment. Le livre des Juges n'est pas unique. Combien de fois à travers l'histoire, il y a eu des moments plus intenses de chaos moral, de chaos spirituel, de chaos de guerre, de chaos politique, de toutes sortes. Et des fois, c'est une partie du monde, des fois, c'est le monde entier qui est pris dans ces chaos. Et dans le livre des Juges, on y est confronté régulièrement, où on dit que chacun faisait comme bon lui semblait, selon les valeurs qu'il avait, selon ce qui était bon à ses yeux, parce qu'il n'y avait pas de roi à cette époque-là. Il n'y avait pas une direction claire, un leader spirituel qui donnait la direction. Et donc, c'est pourquoi on regarde cette série. Et là, on va regarder le livre de Juges, le chapitre 6. On va regarder l'histoire de Gédéon. Et certainement, vous connaissez bien l'histoire de Gédéon. Et on ne va pas regarder toute l'histoire, puisqu'il y a 100 versets consacrés à la section sur Gédéon. Une section tout aussi longue pratiquement que Samson, qui a 4 chapitres, qui a 99 versets. C'est les deux personnages pour lesquels on a le plus d'informations dans le livre des Juges sur leur appel ou sur leur dialogue avec Dieu ou sur le combat qu'ils ont mené, les détails autour, les rencontres avec Dieu particulières qui ont fortifié leur foi pour mener à terme le combat que Dieu leur a donné de relever avec son aide. Et donc, Gédéon, et je vais sûrement faire l'erreur plusieurs fois, et ce personnage qu'on va regarder ce matin. On va continuer la semaine prochaine avec Jephté, et on va continuer après ça, faire une pause, on va avoir Libération 21, et au mois de mai, on va repartir notre série pour compléter avec un message la partie des juges, et de regarder ensuite, 4 semaines, le livre de Ruth, et voir l'espoir dans le chaos. C'est possible. Il y a de l'espoir dans le chaos, et Ruth en est un témoignage que dans cette période des juges, il y a un espoir, et des fois, les belles histoires ne viennent pas de où ce qu'on pense. Comme Ruth, une Moabite. Et donc, on va regarder ça dans le mois de mai et juin, après Libération 21 et la période aussi de Pâques. La semaine prochaine, je vous avertis, juste pour les oreilles sensibles, des fois, il y a des gens qui sont très contre le fait d'être trop cru dans la prédication, mais le titre de la semaine prochaine risque de vous choquer. Puis c'est correct. Je vous préviens d'avance. Parce que, vous savez, le livre des Juges n'est pas très, très catholique. On est d'une société québécoise. Alors, il choisit des mots gras, il choisit des personnes qui ne sont pas très recommandables parfois, des histoires pas d'allure. Une des prédications que je vais devoir faire dans le chapitre 19 à 21, je vais devoir donner des avertissements sévères avant de commencer que ce n'est pas pour des oreilles fragiles, parce qu'on va parler de choses très difficile, pas d'allure. Et donc, soyons pas surpris qu'il y a des choses vulgaires et tough. Et la semaine prochaine, ben, il y a peut-être qui veulent boucher leurs oreilles, mais la semaine prochaine, on va parler de Josué, le fils de pute. Et oui, un vrai. Contrairement aux insultes qu'on entend en France, il y en a qui ont le vrai titre. Et c'était le cas de Jephté la semaine prochaine. Alors, soyez pas surpris. Ça peut paraître vulgaire. Mais c'est ce qu'il était, un fils de prostituée. Et le livre de Juges, et c'est ce que j'aime, nous parle des vraies affaires. N'épargne pas les gros mots, n'épargne pas les histoires dégueux, n'épargne pas les personnages douteux qui font des affaires bizarres et qui nous amènent à avoir des questions morales. Est-tu correct, ça? Es-tu pas d'accord, l'auteur? Es-tu d'accord? Et chercher des signaux, voir si ce qui est là est correct ou pas. Des fois, c'est embêtant. Et entre autres, ce personnage, la semaine prochaine, qui fait jaser aussi beaucoup. Alors, préparez-vous pour ça. Cette semaine, c'est plus doux, mais la semaine prochaine sera plus crue. Et ça fait partie de notre réalité. Il faut appeler les choses par leur nom. Cette semaine, on parle d'un homme qui a vécu des doutes. Et vous savez, parfois, la question du doute est mal vue. Et pourtant, pourquoi avoir une vision négative du doute? On peut considérer les gens parfois, ou les faire sentir mal de trop poser de questions. Vous avez remarqué ça autour de vous? Les gens qui posent trop de questions, là, oui, que ça fatigue, hein? Même sur la politique, si tu poses trop de questions à un politicien, là, il fatigue. Quand on présente un budget, trop de questions, c'est fatigant. Quand tu prends une décision, trop de questions pour expliquer, c'est fatigant. Puis là, quand tu veux expliquer pourquoi tu penses que Dieu t'a dirigé à faire telle question, telle décision, puis là, on te pose des questions. Fatigant. Et pourtant, c'est bon de poser des questions. Parce que ça veut dire qu'on veut comprendre. Ça veut dire que peut-être ce qu'on entend ne nous rassure pas. On a besoin de clarification. Et j'aime quand on lit les Écritures qu'on se pose des vraies questions, des bonnes questions. Parce que le texte nous amène devant des situations, comme dans notre quotidien, qui méritent de se poser des questions, puis pas juste avancer de même. Là. Attends un petit peu, là. Il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Il faut réfléchir. On ne peut pas juste prendre tout cru de même ce qu'on nous dit. Et dans les Écritures, il faut prendre le temps de se poser des questions et d'interroger Dieu lorsqu'on est embêté. J'ai une amie qui lit sa Bible régulièrement, puis elle pose plein de questions à Dieu. Puis Dieu y répond, de toutes sortes de manières. Des fois en lisant un peu plus tard, dans la prière, en discutant avec d'autres. Il faut poser des questions. Et cet homme-là va poser des questions parce que Dieu lui demande de faire quelque chose pas tout à fait habituel. Et en plus, une fois qu'il va accepter, bien là, il va faire des affaires vraiment bizarres. Il y a de quoi se poser des questions. Soyez pas trop durs avec les doutes, dans la mesure que les doutes ne nous empêchent pas d'obéir. Si je doute et que mon doute m'amène à désobéir, c'est là qu'on a un problème. Mais vivre des doutes, poser des questions, avancer et dire, oh, Seigneur, je ne comprends pas. Bien, c'est normal que tu ne comprends pas. Il n'y a pas grand monde qui comprend ce que je fais. Enfin, je suis Dieu. Hein? Et c'est normal que tu poses des questions. Fais-toi-en pas. Peut-être c'est plus inquiétant si tu ne te poses aucune question. Parce qu'il y a des questions à se poser. Mais les questions, on les pose à Dieu. Et Dieu décide s'il veut y répondre ou pas. Et comment il va y répondre. Et je suis mandaté, malgré mes doutes, d'avancer. C'est ça la foi. D'avancer malgré les doutes que je peux vivre, les questionnements, les réponses que je n'ai pas. Mais j'avance quand même. Et il faut apprécier cette qualité que dans ces doutes, notre personnage va se tourner vers Dieu, puis demander. Puis à un moment donné, tu dis, là, tu pousses. Il demande, puis Dieu accepte. Fait, si Dieu accepte, soyons pas trop durs avec notre ami qui va demander plusieurs signes et que Dieu va amener dans un mandat particulier et il va répondre. C'est tout. On va avancer ensemble. Je vous invite à aller au chapitre 6. On va lire une partie de l'histoire. On va lire plus que d'habitude aujourd'hui parce qu'il faut lire et apprécier l'histoire. C'est une histoire, ce n'est pas un texte poétique, ce n'est pas un texte habituel. C'est vraiment une histoire qu'il faut lire dans son ensemble pour apprécier. Donc, au verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et donc, si on veut une image ici, j'ai résumé, je vais y revenir. Voici ce qu'on a devant nous qu'on va lire. Là, okay? Il y a la rébellion. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît ou ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pas à leurs yeux, mais aux yeux de l'Éternel, oui. L'Éternel les livra donc dans les mains des Madianites pendant 7 ans. La main des Madianites ou de Madian fut forte ou fut pesante sur lui, sur Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les roches fortifiées. Et quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Donc, on voit que ce pays, les Madianites avaient des complices avec eux. Et Amalek en est un, puis Amalek est toujours là, fatiguant, en train de rentrer dans les côtes d'Israël. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs textes qui en parlent. Et les fils de l'Orient, un autre groupe. Des fils de l'Est, un groupe arabe à quelque part du désert. Et ils marchaient contre lui. Ils campèrent en face de lui, détruisèrent les productions du pays jusque vers Gaza. Donc, ils ravageaient le pays là, jusqu'à vers la mer complètement, la section des Philistins. Et ils laissaient en Israël ni vives, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils se foutaient de eux ben raide. Ils ramassaient leur récolte quand c'était le temps pour du travail qu'ils n'avaient pas fait. Et ils les laissaient à sécher là avec rien. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et là, c'est la première fois qu'on parle d'une armée ici qui avance avec leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour ravager, littéralement pour labourer. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Ben oui, évidemment, tu scrapes toutes tes récoltes, puis à chaque année, tu essaies d'étirer le temps jusqu'à la prochaine, puis ils viennent te scraper jusqu'à ce temps de récolter ton travail. Je comprends. Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils criaient vers l'Éternel. lorsque les enfants d'Israël crièrent vers l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Alors là, c'est pas pareil que les autres situations. Il y a un prophète qui est envoyé aux enfants d'Israël. Il leur dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Donc, un cri, peut-être une repentance, c'est pas dit spécifiquement, un sermon pour leur reprocher qu'ils avaient reçu tellement d'amour, mais ils n'ont pas obéi. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ce qui se passe, bien, c'est le fruit que vous récoltez de vos choix. C'est ça le sermon, en une ligne. On va prier le Seigneur. Père Céleste, merci de garder dans ta parole des textes qui ne sont pas faciles, des vraies histoires, des vrais personnages qui ne fitent pas toujours notre moule, des gens qui ont douté, qu'on peut s'identifier avec, des gens qui ont vécu dans des moments difficiles avec lesquels on peut s'identifier aussi. Seigneur, parle-nous, Seigneur, ce matin encore une fois. On a besoin d'entendre ta voix. On a des attentes tous différentes les uns les autres, autant pour ceux qui sont en présentiel que ceux qui sont à la maison, en direct, ou ceux qui écoutent en différé. Mais Seigneur, peu importe le moment d'écoute, le lieu d'écoute, l'attente de notre écoute, toi, tu peux nous parler. Tous en même temps, de différentes façons, personnelles. On s'attend à toi, Seigneur. Parle-nous, s'il vous plaît, ce matin, parce que ce qu'on vient de lire, c'est la parole de Dieu. Bénis la parole de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je retourne en arrière un petit instant pour vous rappeler ici, on est dans le chapitre 6 à 9, la section qui est consacrée à ce personnage de Gédéon. On ne le regardera pas au complet, on regarde le premier chapitre essentiellement et je vous résume quelques éléments des chapitres suivants. Mais on voit un homme hésitant qui va obéir malgré tout et c'est le choix de Dieu, un homme de la tribu de Manassé qui va être choisi. Ensuite, au chapitre suivant, il y a ce fameux combat, les hommes vaillants et victorieux, ces 300 finalement qui vont aller de l'avant et par la foi, ils seront victorieux. Et finalement, on a au troisième chapitre, après la fin du combat, ou les derniers éléments du combat, on a cet homme qui se montre sage à certains égards, justicier, mais qui finalement termine la course avec quelques erreurs de parcours en toute fin de course qui vont laisser un mauvais goût, qui vont laisser aussi une occasion de chute au peuple d'Israël, qui est très fragile. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'il dérape. Et on va voir qu'il laisse un héritage très mitigé. Et finalement, il y a un fils qui s'appelle Abimélec, mon père est roi. Son père avait refusé d'être roi, mais en tout cas, sa mère l'a appelé mon père est roi. Et lui voulait devenir roi, et on a son histoire au chapitre 9, une histoire particulière pour laquelle on ne s'attardera pas, mais qui montre le chaos de l'époque et qui aide à voir comment ça n'avait pas d'allure lorsque les gens font juste qu'est-ce qui semble bien à leurs yeux et combien ils ont besoin de Dieu comme roi et de s'y soumettre. Et donc, c'est la section qu'on regarde. Vous avez ici les étapes, la rébellion, rétribution, la repentance. Et là, ici, je nuance repentance. On ne voit pas réellement de repentance. On voit qu'il crie à Dieu. Okay? Et c'est peut-être une première chose à noter. Là. Il crie à Dieu, mais remarquez bien les mots qui sont utilisés. On ne voit pas de repentance. On voit du chiolage, du criage. On voit Dieu qui envoie un messager répondre pour dire, « Ben, ce que vous vivez, c'est les conséquences de vos choix. » Mais on ne lit pas rien qui nous parle d'une réelle repentance. On parle, et j'ai mis ici, donc, l'aspect de repentance avec le mot « crier à Dieu ». Donc, il y a un appel au secours. Mais malgré tout, Dieu est un père. Et il est le père du peuple d'Israël. Et il n'est pas insensible à ce qu'ils vivent. Et il va envoyer malgré tout un sauveur, un libérateur, un juge. Dieu use de grâce. Il faut le voir en partant dans cette histoire. Dieu ne répond pas au mérite ici. Parce que s'il fonctionnerait au mérite, on serait perdu. Et donc, Ce que je veux dire ici, c'est que la restauration qu'il donne, la victoire qu'il donne, n'est que pure grâce. Ce n'est même pas le fruit de la repentance. Ce n'est que pure grâce de Dieu et il va envoyer cet homme Gédéon malgré tout. Et pour vous situer un peu géographiquement, on a vu Hatsar qui était ici et aussi Jabin était ici, Hatsar, mais Déborah, puis Barak qui vont évidemment provoquer le chef de l'armée qui restait ici, Sisera, et Hatsar, le roi Jabin. Il va y avoir un combat dans cette région, en fait, juste autour d'ici, là, entre le mont Tabor et la région où vivait justement le chef de l'armée de Jabin. Donc, c'était la semaine passée. Un combat qui se passe dans cette vallée qu'on appelle la vallée de Jizréel. Et cette semaine, encore une fois, c'est là que se passe, comme bien d'autres grands combats dans l'histoire d'Israël, dans la même vallée, mais un peu plus au sud et à l'ouest. Juste ici, on a le mont Moré, au milieu de cette grande vallée-là, et le mont Gilboa. Et c'est entre les deux ici, où il y a une petite rivière, même pas une rivière, un ruisseau, qui est là que va se passer, il va y avoir le camp ici du mal, et évidemment le camp d'Israël qui va de ce côté-ci. C'est dans cette région que se passe tout ce combat. J'y ai été il y a plusieurs années et vous voyez un peu le mont Moré qui est très différent du mont Tabor qui monte assez rapidement, qui est petit. Monte. Celui-ci est plus étendu et autour de ce mont Moré se trouvent des villes qu'on connaît bien comme l'histoire de la femme de Nain, la veuve de Nain. C'est autour de cette montagne-là. La sorcière d'Endor, c'est autour de cette montagne-là. Alors, il y a plusieurs petits villages autour où il y a eu des histoires, et c'est au pied, sur le côté droit qu'on regarde, que se situe environ la géographie de cette armée nombreuse de 135 000 personnes. Oui, 135 000. C'est ce que le texte biblique nous dit. Une grande armée composée de trois nations, et ils veulent être sûrs qu'ils n'auront pas d'obstacles. Ils vont ravager, ils vont tous repartir, se payer par les récoltes et tout le travail des Juifs qui vont ramasser et partir avec. Et ça va être leur butin, évidemment. Ils se payent de cette façon-là. Et donc, on voit ici le mont Moré, et on le voit un peu en s'en allant, en continuant vers le mont Tabor. Et quand on prend la route vers une autre ville que je vous ai mentionnée, on peut voir, c'était un soir, donc je l'ai pogné, le versant justement du mont Gilboa. Et à quelque part entre la route, puis là, c'est là que se passe le petit ruisseau, que se trouve l'équipe d'Israël, plus petite, 32 000, qu'on va voir dans le chapitre suivant, qui va être coupée finalement de 22 000, ils vont rester 10 000, et finalement, ils vont être coupés d'un autre gros bout, ils vont rester finalement 300 hommes. Pourtant, il en restait 10 000 qui étaient prêts à se battre. 22 000 qui ont dit, bien, si on a le choix, ça ne m'intéresse pas, on retourne chez nous. Il y en a 10 000 qui disent, alors nous, on est prêts. Non, non, il y a encore trop de monde qui va diminuer ça à 300. Pas d'épée en plus, juste des cruches. En tout cas, hein, toute une histoire. Ce n'est pas l'épée qui va gagner. Et donc, c'est la géographie où est-ce qu'on se trouve présentement. Et là, je vous donne ici un portrait, peut-être d'en haut du mont Gilboa, qui vous aide à voir, parce que là, de là, vous pouvez voir justement le mont Moré, où ça va se situer, non, jusqu'ici. Le mont Tabor qui est plus à droite, mais derrière, dans le fond. Et c'est juste ici qu'il va se passer entre les deux camps, cette question-là du combat. Et on ne sait pas où ce qu'est exactement, finalement, notre ami qui reste à la ville d'Ophra. C'est pas clair, c'est où, un petit village, pas loin, dans cette région-là, où ce qu'on va découvrir notre personnage principal. Et évidemment, cette photo-là, je l'ai prise aussi parce que c'est là que se trouve également le combat que Saül va mener avec les Philistins à la fin du livre de Samuel, dans la même vallée, dans la même région, les mêmes montagnes. Donc, beaucoup de combats qui se passent. C'est un endroit stratégique et central en Israël, juste un peu en bas de la mer de Galilée. Et ce matin, ce que je vais faire avec vous, c'est que j'ai pas pris les points que moi j'avais décidé, j'ai pris les points d'un collègue pasteur qui est mort et je trouvais ces points tellement simples. Pour surmonter le doute, il y a des obstacles à surmonter, des vérités qu'on a des fois besoin de digérer. Et à travers le processus d'interaction que Dieu va avoir avec Gédéon, il va répondre à quatre grandes lignes de questions qu'on a souvent, qu'on a besoin d'être rassuré dedans. Et la première, c'est que Dieu se préoccupe-t-il réellement de nous? Quand ça va pas bien, quand on se sent tout seul, lorsqu'on a des malheurs, c'est toujours une question qu'on se pose. J'ai l'impression que Dieu, je me sens loin de Dieu, puis je me sens que Dieu se fout de moi. Levez la main, ceux qui l'ont déjà vécu. Pas de doute, là. Hein, c'est ça. C'est une lutte humaine régulière. Parce qu'évidemment, quand ça va mal, c'est difficile, qu'on ne se sent pas compris par les gens, qu'on prend sur une épreuve, on a tendance à se replier sur nous, pauvre de nous, on est les seuls qui vivent ça, on le vit pire que les autres souvent. T'sais, on est comme ça, on fait des drames de ce qu'on vit beaucoup. Puis ça ne veut pas dire que c'est pas difficile ce qu'on vit, là. C'est pas ça que je voudrais dire, c'est difficile. Mais il y en a d'autres qui vivent des choses difficiles, mais on va se comparer à moins pire, puis on va se dorloter là-dedans. Et là, finalement, Dieu n'a pas de l'air. Je demande des choses à Dieu, puis il n'a pas de l'air à répondre comme je veux. Puis là, on se sent seul, incompris, et on commence à douter. Est-ce que Dieu vraiment est sensible à ce que je vis? Et le premier texte qu'on vient de lire nous dit que oui. Parce que malgré qu'il n'y a pas de repentance claire, mais il y a un cri. Il y a un cri de détresse, mais ce n'est pas un cri d'un innocent. C'est un cri de souffrance, mais de quelqu'un qui a pris des mauvais choix et qui vit des souffrances de ses choix. Mais Dieu n'est pas indifférent quand même. Dieu n'est pas indifférent. Même quand on a mérité notre malheur, il voit notre souffrance, il n'est pas indifférent. C'est ce que le texte nous témoigne déjà là en partant. Et il va envoyer quelqu'un, malgré tout, qu'on appelle un sauveur, un libérateur. Ça nous dérange le mot sauveur, il y a juste un seul sauveur. Mais c'est le mot utilisé, quelqu'un qui va nous sauver, un sauveur, un libérateur, un conducteur d'armée, quelqu'un qui va amener un combat qu'ils vont, par la grâce de Dieu, gagner. Et donc, Dieu se soucie d'eux. Et l'auteur, par ces informations-là, nous rappelle cette vérité-là qui est importante. Et après ça, Dieu sait-il vraiment ce qu'il fait? On va lire. Alors, regardez bien, on continue au verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel. Donc, l'ange de l'Éternel, on n'a pas encore rencontré personne ici jusqu'à présent. Il y a un sermon qui fait un reproche au peuple, qui dit, écoutez, vous avez ce que vous méritez, vous avez désobéi à Dieu. Malgré tout, le Seigneur fait une démarche ici, et là, l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qu'on ne sait pas exactement où c'est ce petit village-là, qui appartenait à Joash, de la famille d'Ébiézer. Donc, c'est comme un clan à Ébiézer. Ça veut dire mon père a été secouru, ou mon père est un secours, quelque chose comme ça. Fait partie de la tribu de Manassé, qui est juste un peu en bas de la Galilée. Mais Manassé est sur les deux côtés. Il y a une partie de la tribu de Manassé qui est sur le côté, l'autre bord du Jourdain, qui serait en Syrie actuelle. Il y a une partie de Manassé qui était de ce côté-ci du Jourdain, du côté d'Éphraïm, où ce qu'on est présentement. Et donc, un de ces personnages-là, de la descendance d'Abiézer, s'appelle Joas, et il a un fils qui s'appelle Gédéon, on apprend. Et là, regardez bien ce qui se passe. Il battait du froment ou du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. On s'arrête ici un instant. C'est quoi qu'il fait là? Il est en train de battre du blé, mais dans un endroit où on est supposé d'être en train de presser du jus de raisin pour faire du vin. Alors, nous autres, on fait comme, OK. Mais c'est parce que quand tu bats du blé, ce que tu faisais, c'est que tu te plaçais quelque part où il y avait du vent. Tu ne te plaçais pas dans une cabane comme on fait pour quand on écrase du raisin qui est couvert pour protéger ce qui est là, qu'on se lave, que tout est... Non, on l'amène à quelque part où il y a du vent pour qu'on l'écrase puis que toute la paille, elle, parte mais qu'on garde juste le blé seulement, oui. Et quand on utilise l'image là, de la paille qui part au vent puis qu'on va brûler, c'est cette image-là. On garde ce qui est bon, on lève, on garde, de toute façon, on l'écrase. Mais on ne faisait pas ça dans une cabane puisqu'il n'y avait pas de vent. Tu ne fais jamais ça. Tu fais ça pour écraser du raisin parce que tu ne veux pas de poussière dans les airs qui tombe sur le raisin pendant que tu fais ton bon vin. Puis il y a de la cochonnerie. Donc, on le met dans un endroit caché. Mais là, lui, au lieu d'être en train d'être au vent, il est dans une petite cabane au pressoir à place. Et là, ça nous dit, OK, il y a peut-être quelque chose qui se passe ici. C'est supposé de capter notre attention. Pourquoi il fait ça? Mais c'est parce qu'il ne voulait pas être à vue pour attirer les regards d'une grande armée qui était là pour ramasser. Il faisait affaire en cachette. Il dit que les gens se cachaient, puis ils cachaient leur récolte, ils cachaient leur stock, puis ils se cachaient eux-mêmes dans les ravins, dans les grottes, puis Dieu sait qu'il y en a plein dans cette région-là. Et donc, lui, il fait tout ça en cachette parce qu'il ne veut pas attirer l'attention et se faire voler son blé. Vous voyez? Alors, on voit ici un homme qui fait quelque chose de bizarre culturellement, mais c'est à cause du contexte. Et là, l'ange de l'Éternel lui apparut. Et déjà ici, là, quand vous voyez ça, là, l'ange de l'Éternel lui apparut. Soulignez-le ici. Parce qu'à chaque fois que tu vois cette expression-là, ça paraît drôle, parce que c'est traduit « lui apparu », Mais en réalité, si on veut le traduire littéralement, là, c'est l'ange de l'Éternel se laisse avoir. J'en ai déjà parlé dans le passé. C'est une expression qu'on utilise souvent quand on voit les patriarches qui rencontrent Dieu, puis on dit « l'ange de l'Éternel se laisse avoir ». Et déjà, quand tu entends ça, la manière dont le Verbe s'exprime, il est en train de lancer le signal que c'est une pure grâce de Dieu. Dieu ne se laisse pas voir. Mais là, c'est Dieu qui vient vers l'homme, et l'ange de l'Éternel, on va découvrir qu'il est l'Éternel lui-même, une sorte d'incarnation, peut-être même le Fils de Dieu préincarné. L'ange de l'Éternel est Dieu lui-même. Et il se laisse voir. Encore une marque de grâce de la part de Dieu. Et on dit ceci. Il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Est-ce que tu parles au gars qui est caché dans son pressoir, en train d'écraser son blé pour pas que personne le voie? C'est à lui que tu parles? Vaillant héros. Il doit regarder vers le potentiel, sûrement. Hein, c'est... Ou vers justement ce qu'il y a comme plan pour lui. Hein? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, » parce qu'il dit, « L'Éternel est avec toi. » Mais là, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Vous voyez, j'ai un doute que Dieu est bon pour nous puis il se soucie vraiment de nous. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madianites. Vous me suivez, là? On se flatte le nombril, là. Pauvre de moi. On comprend qu'il y avait eu un sermon qui expliquait que, « Mais non, vous n'avez pas obéi. C'est pas moi le problème, c'est vous, là. » Mais il est là-dedans. Le Seigneur est patient avec lui. Il laisse vider son sac, puis il va, tu sais, là, faire un chemin avec lui. OK? Le Seigneur ne le reprend pas. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force. » Il ne répond même pas. Il dit, « Va avec la force que tu as et délivre, sauve Israël de la main des Madians, de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » C'est parce que je viens juste de t'exprimer quelque chose, là, puis... c'est parce que, me semble, tu n'as pas répondu à ma question, Seigneur. Je me sens pas compris. Seigneur, il ne l'a pas rabroué. Hein? Il a écouté. Après ça, il dit, je suis avec toi. Vas-y. Ma force t'accompagne. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce n'est pas n'importe qui t'envoie, là. Mais là, il n'a pas encore compris c'est qui l'envoie ici. C'est qui y parle. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Puis là, c'est mon Seigneur avec un petit S parce qu'il ne comprend pas que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est pauvre. On a vu tantôt que eux autres, ils étaient forts. Il dit, lui dit, moi, on est très, très, très pauvres même. Très pauvres. On est un petit groupe pas bien important dans la tribu de Manassé. Je suis le plus petit en plus de ma maison. Je suis le bébé de la gang en plus. Il y a des plus vieux avant moi. Il y a des tribus plus importantes. Il y a des chefs de tribus, des familles, des clans de tribus plus importants que moi. Tu t'es trompé sûrement. Sûrement que tu t'es trompé de maison. L'adresse est un petit peu plus loin sur la rue. L'Éternel lui dit, ah, vous voyez ici, l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle à travers l'ange de l'Éternel ici. Fait que là, on comprend ici que c'est Dieu qui lui parle. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme, donc avec unité. Et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce dans tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et j'apporterai mon offrande et je le déposerai devant toi. Et l'Éternel dit, je vais rester jusqu'ici, vas-y, jusqu'à temps que tu reviennes, il n'y a pas de problème. Gédéon entra, prépara un chevreau, il fit avec un éphod de farine, des pinces en levain. Il mit la chair dans un panier, de la viande, du jus dans un pot, et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Prends la chair et les pinces en levain, pose-les sur le rocher et répands le jus, donc la sauce. » Et il fait, c'est comme s'il allait prendre un repas ensemble, finalement. Et l'ange de l'Éternel lui dit ça. Et là, au verset 21, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Donc, on voit que l'ange de l'Éternel apparaît comme un être humain, comme un humain qui vient à lui. Il toucha la chair et les pinces en levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pinces sans levain. Et l'Éternel, l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux. OK. Wow. Tu veux un signe? Voilà le signe. Quand ton repas se fait bouffer par le feu, devant toi, puis que la personne qui est là disparaît, c'est un signe. Hein? Et là, l'Éternel lui avait donné un message. Comment réagit Gédéon? Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, là, il vient de catcher. OK! Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Une réaction qu'on voit ailleurs dans les Écritures lorsque des êtres humains rencontrent l'Éternel, réalisent que l'être humain ne peut pas rencontrer Dieu face à face. On est indigne, on est imparfait, il est parfait. Tu devrais mourir, tu ne peux pas voir Dieu et y survivre. Et plusieurs histoires racontent cette réaction-là. Et l'Éternel lui dit, et là on ne sait pas comment parce que l'ange de l'Éternel est parti. Mais le Seigneur lui dit, on ne sait pas comment, quel moyen, mais il va lui dire, « Sois en paix, shalom, ne crains point, tu ne mourras pas. » D'une manière quelconque, Dieu va lui communiquer maintenant différemment, mais le rassurer dans ses craintes. Et tout au long du chapitre, c'est ce que le Seigneur va faire. Parce que le mot « crainte » est utilisé plus tard au verset 27, il est utilisé un peu plus tôt aussi, il va apparaître à quelques fois, parce qu'il doit composer avec les craintes de cet homme-là, répondre à ses craintes, répondre à ses questions. Est-ce que Dieu se préoccupe réellement de nous? Oui, il monte là ici. Il a envoyé un prophète, il a un ange de l'Éternel pour rencontrer Gédéon. Dieu sait-il vraiment ce qu'il fait? Ben oui, l'ange de l'Éternel fait un signe, là, puis clairement, s'il est capable de faire ça, il doit savoir ce qu'il fait. Et il s'approche d'un homme. Sais-tu vraiment qui tu choisis? Oui. C'est pas ça qui est important. C'est le fait que là, tu as un message de Dieu, puis tu as un signe qui te montre que c'est authentique tout ça. Je sais ce que je fais, mais c'est pas terminé. Ça continue. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. Donc, Yahvé Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Ébénézer. Donc, peu importe qui est l'éditeur ou l'auteur du livre, 100 ans, 200 ans après, cet autel-là qui rappelait que Dieu, à cet endroit-là, avait rencontré Gédéon, que Dieu lui avait dit, la paix soit avec toi, même si tu l'as vu, c'est correct, tu ne mourras pas. Que Dieu avait répondu pour le rassurer, cet autel-là était resté, au moins 100, 200 ans après. Parce que l'auteur ou l'éditeur ici souligne pour le public plus tardif, que, hey, vous savez, cet autel-là qu'on le connaît là, dans l'office du tourisme d'il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, un des lieux à visiter, c'est l'autel là, Shalom. Là, c'est de là que ça vient l'histoire. Il n'est plus là probablement aujourd'hui. Mais à cette époque-là, il dit aujourd'hui, c'est encore là. C'est là qu'on voit comment plusieurs petits signes de cet écrivain tardif. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Mais attends un petit peu. Dieu prend-il soin de moi dans le processus de tout ça? Il va-tu faire des petites attentions pour moi? J'ai des petits besoins particuliers, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai des craintes, moi. J'ai mes blessures du passé, j'ai mes traumatismes du passé. Est-ce que Dieu il va prendre soin de moi dans les pas de foi que je vais faire? Et là, on a la réponse. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. » Pourquoi 7 ans? Peut-être c'était pour l'aspect religion. On demandait souvent des taureaux de 7 ans. Est-ce que c'est lié aux 7 ans des Madianites? On peut spéculer que probablement c'est plus l'aspect religieux pour offrir un sacrifice. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Fait que ton père aussi n'était pas bien catholique. Là. Il avait dévié du chemin. Il y avait des statues qu'il adorait. Il s'était égaré. Il suivait les dieux païens des gens qu'ils avaient battus, des gens locaux. Et c'était dans sa famille le problème aussi, là. Donc, il ne choisit pas une famille qui, elle, s'était gardée pure plus que tous les autres. Il prend une famille comme toutes les autres qui était poignée à adorer des faux dieux. Il n'était pas plus pur que les autres. Ce n'était pas le choix. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Donc, souvent, c'était une statue qu'on avait fabriquée, qu'on avait rentrée dans le sol comme un pieu, qu'on avait évidemment dessiné, sculpté le dieu en question. Des fois, il y en avait plus qu'un, dont les poteaux d'Ashra, donc la déesse. Il y a tout cet amalgame-là et autour duquel il y avait une sorte de temple et des pratiques occultes qui se faisaient. Il dit, abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Donc, c'était un endroit démarqué quelque part, un autel à l'Éternel à place, qui va prendre la place. Et tu prendras le second taureau, et là, lui, tu vas l'offrir en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. C'est insultant, ça. Dieu, il recycle, hein, il ne gaspille pas. Fait que même la statue, on la brise en morceaux, puis on la hache, puis on l'utilise comme bois de chauffage pour le sacrifice pour l'Éternel. Mais là, en même temps, c'était tout qu'un pied de nez à ce Dieu-là. Hein? Gédéon prit 10 hommes. Ça y est, là, on commence. Là, ça a commencé l'action. Parmi ses serviteurs, il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison, bon, hein, il est encore peureux, lui-là. Tu viens de faire un signe, voyons. OK, mais à cause qu'il craignait la maison de son père, les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Bon. Qui peut le blâmer? On aurait tous fait la même affaire. C'est pourquoi chercher le trouble absolument? Je suis pour le faire, je ne vais pas me faire fatiguer plein de monde. On va le faire la nuit, là, c'est moins dérangeant. Là, on va pas avoir plein d'attention. Ça va choquer tout le monde le matin de toute façon, là, tu sais. Lorsque les gens de la ville furent levés au bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessous était abattu et le second taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Il s'est passé du stock cette nuit-là. Et ils se dirent les uns aux autres, « Qui a fait cela? » Ils s'informèrent et firent des recherches et on leur dit, « Ah, c'est Gédéon, le fils de Joash, qui a fait cela. » Alors, les gens de la ville dirent à Joash, « Fais sortir ton fils, qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » OK. Dieu a choisi une famille qui adorait des faux dieux. Il choisit un clan qui n'est pas bien ben gros, pas bien ben populaire. Il choisit une ville pas bien ben catholique non plus. Parce que là, ils veulent tuer le gars qui a renversé la statue de Baal. Ils sont à la défense du dieu statue. Du dieu de bois. Imaginez, c'est des Juifs, puis ils défendent une statue. Ça va pas bien en Israël. Moralement, c'est le déclin. Ils sont éloignés de Dieu, et quand tu es en train d'être prêt à tuer du monde pour ta statue, mais pensez-y. Une fois que tu t'éloignes de Dieu, que Dieu s'est fait tasser, que tu n'as plus de repères, puis tu fais une religion selon tes yeux, selon ce qui est bon pour toi, selon comment je me sens bien, puis que là, quelqu'un s'attaque à ton affaire qui te fait sentir bien. Hein, les dents sortent. Parce que là, tu l'aimes, ton Dieu. L'affaire dans laquelle tu t'es investi, l'activité, la chose, l'argent, le succès, ton travail, ou la chose dans laquelle tu t'es versé parce que Dieu n'est plus la première place. Parce qu'il faut se le dire. Honnêtement, souvent, en Amérique du Nord, on a beaucoup de chrétiens qui professent croire en Dieu, mais qui se comportent comme des athées. Dieu n'a pas beaucoup de place dans les décisions du quotidien. Soyons bien honnêtes. On a tellement d'occupations, de distractions, une multitude de dieux, d'occupations, de TV, de sport, de succès, d'études, de choses dans lesquelles on peut se déverser, qu'on a beaucoup de dieux qui nous sont offerts. Mais ça paraît beaucoup mieux qu'une statuette dans le parking en arrière, tu sais. On trouve ça un peu barbare, on trouve ça un peu, voyons, non, c'est ridicule, adorer une statue, statue. C'est film, c'est archaïque, c'est homme de Cro-Magnon, on méprise ça, on trouve ça niaiseux. Mais en Amérique du Nord, on fait juste le faire avec plus d'esthétique. Hein, on fait juste enlever la statue, là, mais à la place, des fois, ça peut être une TV, des fois, ça arrive. Hein? Ça peut être une personne, ça peut être l'amour, ça peut être tellement de choses qui obsèdent tes pensées, qui devient le centre et que tes décisions sont prises autour de cette chose-là qui a pris la place de Dieu parce que oui, tu crois en Dieu, mais Dieu, il n'est pas bien présent dans tes décisions, pas plus qu'un athée, finalement. Et c'est ce qui arrive dans un refroidissement spirituel, et c'est ce qui se passe dans une époque chaotique, où ce que tout autour de nous est là pour nous solliciter, pour nous faire débarquer, dérailler notre train. Alors, soyons pas trop durs ici, parce que peut-être il y en a qui ont des statuts que si on s'y attaquait, ça mordrait. Vous seriez insultés. Non, non, c'est pas mon Dieu, c'est juste que là, j'ai le droit de faire ça. Hey, ça, j'ai le droit. Hein? J'ai le droit. C'est pas juste nos enfants qui disent ça, vous savez. Hein? Moi, je l'entends autant d'adultes. Mais là, j'ai le droit, pas, là, j'ai le droit. Puis là, on dirait, la proclamation de mon droit vient juste de clore la question. Puis les autres, ben là, tu sais, là, c'est pas grave, là, le pote, là, c'est pas grave, j'ai le droit, c'est légal. Ah, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Écoute, c'est légal, t'as le droit. T'as le droit de prendre quelque chose qui est nocif pour ta santé, c'est légal. Puis t'as le droit de prendre quelque chose sur lequel tu vas devenir dépendant, puis qui rend ton cerveau un peu plus au ralenti, puis qui va te rendre dépendant de tout ça avant de te coucher, puis qui va te rendre un peu plus moins tout là pour prendre tes décisions. T'as le droit, c'est légal. Est-ce que parce que t'as le droit, que c'est bon pour toi, que c'est intelligent comme décision? Attention là, j'ai le droit. On dit bien des affaires sur le dos de « j'ai le droit ». Des fois, « j'ai le droit », ça cache une statue en arrière. Hein? On se cache derrière des choses. Rappelez l'histoire de la fille, la Rachel, la femme de Jacob. Lorsqu'ils ont quitté le pays, Laban court après eux autres. Puis là, elle avait volé la statue de son père. Hein? Puis qu'est-ce qu'elle a fait, elle a utilisé? Ses menstruations. Ces périodes. Ah, je suis sous la période de temps. Fait qu'elle s'est assise sur une affaire, puis là, elle l'a cachée derrière, puis elle dit, ah, je peux pas me lever, là, sinon, tu sais, là, je vais saigner, je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle, là. Puis là, je vais pas faire ça à ma fille. Fait que là, elle a pu cacher ça. Elle s'est cachée derrière quelque chose de légitime, mais pour cacher son Dieu. On utilise bien des choses légitimes, des affaires sur mon droit, des affaires qui paraissent bien, pour cacher une petite statuette à quelque part qui est cachée. Puis on n'aime pas ça que quelqu'un l'appelle un Dieu. Que quelqu'un l'appelle Baal, maître. C'est juste ça que ça veut dire, maître. Celui que je sers, celui qui influence mes décisions. Attention, il y a peut-être plus de Baal à Trois-Rivières qu'on peut le penser. Il y a peut-être plus de statues qu'on pense planter dans bien des cours de Trois-Rivières. Ils sont subtils. Ils n'ont pas une grosse cathédrale autour. Puis, il n'y a pas de statue évidente, mais il y en a. Attention. Et donc, ce groupe de vaillants juifs s'en vont à la défense de Baal. Wow! Quelle histoire, hein? Et là, on dit au verset 31, et là, tout à coup, ben là, c'est son fils qui se fait attaquer. Fait que là, Joash, il sort les dents aussi, parce que c'est mon fils. Fait que là, tout à coup, Joash répond à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce que vous prendrez le parti? Est-ce que vous allez plaider? Et le mot qui est utilisé, c'est vraiment le mot pour plaider comme en cours. Est-ce que vous allez être les plaidoyants, les avocats de la défense pour M. Baal? Est-ce que vous allez venir à son secours? Pourquoi prendre parti pour Baal? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Oh, OK, là, il y a une menace claire. Si Baal est un dieu, ben qu'il plaide sa cause lui-même, puisqu'il a renversé son autel. Pourquoi vous le défendez? Il n'est pas capable de se défendre tout seul. Le dieu qui s'occupe de la fertilité, de la pluie, d'envoyer tout ça quand c'est le temps, auquel vous vous donnez beaucoup autour, là, puis faites toutes sortes de cérémonies, là, qui se défendent comme un grand. Pourquoi vous êtes là à le défendre? Et là, il va plus loin. S'il y en a qui veulent le défendre, il va mourir avant le matin. Oh! Là, le père de Gédéon, il a sorti écrou. Parce que là, ça touche son fils tout à coup. Parce que lui aussi, il pratiquait dans tout ça. Là. C'est l'hôtel de son père, dans sa ville. Et là, c'est son fils. Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe là, dans le cœur du père. Et ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubal. En disant que Baal plaide contre lui. Jérubal, c'est juste une abréviation au bout de son nom qui veut dire plaider. Alors, plaider pour Baal ou Baal va plaider pour lui-même, c'est l'idée de son nom ici, là, puisqu'il a renversé son autel. Et toute Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Donc, Dieu prend soin de moi et il va le protéger ici dans ce premier geste de foi. Il a donné un signe. Il fait un geste de foi, il renverse parce que Dieu lui a demandé de faire une action très claire. Revenez au verset 25, là, puis remarquez bien, là, une série de verbes. Là. Il dit, « Prends le jeune taureau, renverse l'autel, tu bâtiras, tu abattras, tu disposeras un autel. » 5 verbes qui sont donnés, et c'est des impératifs, et il va les faire. Et Dieu va le protéger dans ce premier pas de foi-là. Il va en étape. Il ne demande pas tout de suite d'aller au combat. Il va faire des étapes avec lui. Il rencontre l'ange de l'Éternel. Il y a ce signe, il fait un petit geste de foi, oups, le Seigneur le protège, et il est en train de rassurer, oui, je me préoccupe d'Israël. Oui, j'ai vraiment un plan, puis c'est pas fou, mais tu vas voir. Puis oui, je vais prendre soin de toi. Je t'ai dit, vaillant guerrier, vas-y de l'avant avec ce que tu as comme force. Vas-y, je vais te protéger. Et il protège. Et là, Dieu garde ses promesses. Regardez bien. Verset 32 à la fin. Et ce jour-là, OK, il y a le nom de Jérubbaal. On dit au verset 32, « Toute Madian, Amalek et les fils d'Oria, qu'on a mentionné au début, se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée d'Israël que je vous ai montré tantôt. » Et là, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. C'est pas lui qui s'habille. Il a été, le verbe est « fut revêtu », il est passif. Donc, c'est l'Éternel qui vient l'habiller de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Et qu'est-ce qu'il fait après ça? Il sonna de la trompette. Il est revêtu, il sonne de la trompette pour appeler. Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans toute Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya ensuite des messagers à Aser, à Zabulon et Naphtali. C'était les tribus qui étaient juste au nord, collées parce qu'ils étaient sur la frontière. Eux aussi partageaient des frontières avec la vallée de Jisréel. Et ils montèrent à la rencontre. Gédéon dit à l'Éternel, « Si tu veux délivrer Israël par ma main. » Là, tu commences une conversation avec le « si ». Porte attention. « Si, comme tu l'as dit. » OK, il est en train de douter encore. Là. « Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, sur le terrain. » Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Ça fait trois fois qu'il dit, je vais le faire par ta main. Il y a encore des doutes. Et là, Dieu le frappa en voyant un feu du ciel parce qu'il douta. Non, non, c'est pas ça qui est écrit. Hein? Vous n'étiez pas vite à réagir. Hein? Vous êtes toutes là? Tu cherchais la version, hein? Non, Seigneur, il est patient. Il va continuer avec lui. Il ne choque pas contre lui. Il répond à son doute. Et il arriva ainsi le jour suivant. Le texte dit juste, « Et il fut ainsi. » C'est tout. Dieu l'a fait. Il se leva de bon matin, pressa la toison, et il fit sortir de la rosée qui donna de l'eau, plein une coupe. Fait qu'il y avait vraiment de la rosée. Et là, Gédéon dit à l'Éternel, « Mais que ta colère ne s'enflamme point contre moi. » On dirait Abraham, hein, quand il demande là, pour ne pas juger dans le chapitre 18. Là, les mêmes mots sont utilisés. « Choque-toi pas, s'il vous plaît, contre moi, mais j'en aurais une autre demande à te demander. Je ne voudrais pas abuser, Seigneur. Mais s'il reste juste 10 personnes à Sodome, tu vas-tu brûler la ville? » Et là, il dit, « Si je peux te demander un autre petit signe, s'il vous plaît, avec sa petite voix. » Que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je te parlerai plus là, de cette affaire cette fois-ci. Là. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sec et que tout le terrain se couvre de rosée à place. Hein? Faire le contraire. Et Dieu fit ainsi. C'est tout. Dieu l'a juste fait. Cette nuit-là, la toison seule resta sec et tout le terrain se couvrit de rosée. Rappelez-vous, là, pendant tout ce temps-là ici, l'armée est encore parkée l'autre bord de la rue, là. L'autre bord de l'autoroute, là, il est parkée, là. Ils sont là, ils attendent pour attaquer, puis eux autres sont de l'autre côté. Puis là, il se passe une nuit, il se passe une deuxième nuit. Nous, on lit ça en 3-4 versets, mais il s'est passé 48 heures, là. Vous me suivez? Tu es patient. Ils sont à l'autre bord, parkés, ils voient, là, c'est intimidant, ils ne partent pas tout de suite. Puis Dieu, il donne deux autres signes. Deux autres signes. Et vous savez, Dieu n'a pas seulement répondu à son besoin, mais Dieu en a donné encore plus. Mais juste pour nuancer ici, là, le signe de la toison. Le signe de la toison est tellement populaire. Le signe de la toison. J'aimerais juste nuancer quelque chose ici. Okay? Quand on parle du signe de la toison, là, soyons clairs. Quand on dit « Ah, j'ai mis une toison devant Dieu. Okay? » Nous, on l'utilise plus souvent pour parler de « Je veux trouver la direction de Dieu. » Fait que là, j'ai mis, s'il fait ça, on va faire ça, puis s'il fait pas ça, on va faire ça. C'est comme ça que nous, on l'utilise en Amérique du Nord. J'ai mis une toison devant Dieu. Mais Dieu avait déjà donné ici la direction. OK, on se comprend? Dieu avait déjà direction, effectivement. La direction, elle a été donnée, effectivement. C'est clair. Moi, j'aime ça quand on répète en arrière. Ça, c'est pédagogique. Hein? Fait que, direction. La direction était déjà donnée. OK? Fait que l'enjeu, c'est pas de savoir où il faut que j'aille. Le signe de la toison est strictement un signe que Dieu ajoute pour fortifier la foi. OK? La direction était déjà donnée. Souvent, on utilise la toison, puis attention de vouloir utiliser les signes de l'Ancien Testament pour trouver la volonté de Dieu dans ta vie. Tu sais, Dieu, il ne fonctionne pas comme ça, là, une recette miracle pour trouver la volonté de Dieu. Mets ta guenille sur le four, sur le gazon, puis là, si elle est mouillée, tu sais. C'est pas parce qu'il l'a fait avec quelqu'un qu'il va le faire avec toi, là. Dieu n'est pas comme ça. Sinon, ce serait comme des recettes magiques. Le christianisme, c'est pas ça, là. Et donc, attention à toute cette question-là de détendre une toison. Comprenons bien ici ce que c'est. C'est simplement une confirmation que Dieu ajoutait pour fortifier la foi de quelqu'un qui allait faire quelque chose d'énorme. Il se mettait la tête sur la ligne. Il allait diriger une armée contre une autre armée, quatre fois plus grande. Il y avait de quoi avoir peur. Puis peut-être même, si tu n'as pas peur, peut-être que tu as un problème. La peur, vous savez, c'est sain d'avoir peur. Ça veut dire que tu reconnais qu'il y a un danger. Un enfant qui n'a pas peur, c'est dangereux, vous savez. Très dangereux. Puis quelqu'un qui n'a pas peur, quand il fait des affaires là, sur la route, là, c'est quelqu'un de dangereux. Une saine peur, c'est important. Mais attention, de ne pas être conduit par la peur. Parce que la peur n'est pas un bon conseiller. Et le courage, ce n'est pas de ne pas avoir de peur. Le courage, c'est d'avancer malgré la peur. Mais la peur est notre allié. Vous savez pourquoi? Parce que la peur m'amène à crier à Dieu. Elle ne devrait pas m'empêcher d'avancer, la peur. Elle devrait m'amener à inviter Dieu dans ma peur pour que je puisse avancer malgré tout. Et c'est ça le courage, d'avancer malgré ma peur. Ils ont tous eu peur. Ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament qui ont avancé avec quelque chose que Dieu leur demandait, puis que c'était comme... Mais ils l'ont fait quand même. Ils ont surmonté leur peur par le courage que Dieu donne d'obéir après avoir crié à Dieu, dire « J'ai besoin de toi, je vais le faire malgré tout, mais écoute, il semble que ça n'a pas de bon sens, Seigneur. » Mais ils ont avancé et Dieu a accompagné et a rempli sa promesse. Dieu gardera-t-il ses promesses? Oui, oui. Et Dieu est tellement bon ici que je ne vous le lirai pas. Mais au chapitre suivant, il va éplucher l'armée. Je l'ai dit, là, de 32 000, ils vont tomber à 10 000 qui veulent rester. Ils vont tomber finalement par un espèce de jeu arbitraire de qui va boire de l'eau, de quelle façon. Puis finalement, ils vont éliminer la majorité pour qu'il reste 300. C'était complètement arbitraire, là, tu sais, là. Mais Dieu voulait juste ramener un groupe tellement évident qu'il ne pourrait jamais gagner que là, Dieu pourrait gagner. Puis ça serait Dieu qui gagnerait. Mais là, évidemment, Dieu, il t'a donné deux signes. Là, tu as ton armée, mais là, il vient de couper ton armée de 32 000 à 300 personnes. C'est sûr que peut-être j'aurais besoin d'un autre signe, moi. Pas vous? Parce qu'avant les deux autres signes, il ne m'avait pas dit ça, là. Il l'a dit après les signes. Il n'a pas besoin de demander de signes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il lui permet de faire une excursion avec deux de ses hommes, et il s'en va se promener dans le noir, dans le camp ennemi. Puis là, pendant qu'il est en train de se promener dans le camp ennemi, il y en avait un ou deux, en fait, qui avaient mangé de la pizza super tard. Il avait commandé chez Stratos. Puis, vous savez, quand tu commandes de la pizza tard, tu as des rêves la nuit, OK? Et là, est-ce que c'est par un pur hasard qu'ils ont rêvé puis raconté leurs rêves? Au moment où il est là, ils entendent deux personnes dans une tente qui se racontent un rêve. Et dans le rêve, ils voient l'ennemi venir les battre, être victorieux contre eux. Est-ce que c'était parce qu'eux autres, tout simplement, c'est des fois nos rêves, ça arrive des fois que quand on a peur de quelque chose, qu'on retrouve ces choses-là dans nos rêves, ça vous arrive? Des choses, alors, c'est-tu juste un parfait hasard qu'ils voyaient l'autre ennemi, ils avaient peur, et qu'ils n'auraient pas peur de l'ennemi, même s'ils sont plus nombreux, puis que là, il a pensé à ça. Peu importe comment est venu le rêve, en tout cas, c'était un timing divin, ça c'est clair. qui soit raconté à ce moment-là pour qu'eux puissent l'entendre et qu'en entendant cela, Dieu fortifie la foi de cet homme qui avait besoin d'avoir un autre signe après avoir été épluché de 32 000 à 300 personnes. Pour faire. Et là, Dieu, dans le fond, a donné quatre signes. Il y a eu ce feu, il y a eu la signe de toison numéro 1, signe de toison numéro 2. Je shake la guenille, je vide toute l'eau. Effectivement, ça fonctionne. Et là, finalement, le rêve, après que tout ça arrive, le Seigneur donne quatre signes. Et jamais il l'a chicané. Je trouve ça intéressant. Il demande de grandes choses. Mais à qui il demande de grandes choses si Dieu investit beaucoup dedans? Dieu équipe proportionnellement. Il ne demande jamais de faire quelque chose pour lequel il ne te donne pas les outils, vous savez. Peut-être que tu ne sais pas que tu as encore ces outils-là dans ton coffre à outils. Mais il ne te donnera pas quelque chose à faire pour lequel il ne va pas te donner les outils. Dieu ne fait pas ça. Dieu, ce n'est pas un père qui demande à son enfant de 5 ans de prendre une chainsaw puis d'abattre un arbre. Parce qu'à 5 ans, tu ne peux pas partir une chainsaw, tu ne peux pas la tenir et tu ne peux pas abattre un arbre. Tu risques de te couper une jambe. Dieu ne fait pas ça parce que c'est un père aimant. Oui? Puis s'il va faire quelque chose d'extraordinaire, il va s'occuper de toutes les ressources pour le faire. Mais est-ce que Dieu va trouver un homme, une femme disposée, malgré nos manquements, malgré que je ne suis pas le plus spirituel, malgré que je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus connaissant de la parole de Dieu, je ne suis pas le chrétien qui se démarque le plus, va-t-il avoir quelqu'un qui va dire, « OK, si tu veux que je le fasse, je vais le faire. » Imaginez, c'est dur de trouver quelqu'un pour le parking. Pensez-y, c'est dur d'avoir quelqu'un pour le parking. C'est dur d'avoir quelqu'un même pour le ménage. Alors, quelqu'un qui va se tenir debout pour Dieu publiquement, qui va mettre sa tête sur la bûche, risquer qu'on parle de lui, de elle, comme un Jesus freak, comme quelqu'un de conservateur, de dangereux religieusement, d'extrémiste parce qu'il croit en telle ou telle chose que la Bible dit. Pensons-y. Le Seigneur est bon. Et le Seigneur donne à cet homme-là ce qu'il a besoin pour y arriver. J'aimerais atterrir avec vous. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cet homme-là a reçu l'esprit de Dieu, et au moment où l'esprit de Dieu est venu sur lui, il a agi. Est-ce que tout à coup, il n'y avait plus de peur? Non. Est-ce que tout à coup, il n'était plus humain, puis il n'y avait plus de lutte humaine? Non. Est-ce que tout à coup, il ne pouvait plus avoir de l'anxiété, de la colère et toutes ces émotions qu'on doit gérer dans le combat? Non. Ses faiblesses étaient encore les mêmes. Mais il a reçu l'Esprit de Dieu qui l'a revêtu pour accomplir un œuvre de Dieu. Tout simplement. Et il a répondu. Il lui a permis d'avoir la force de juste avancer. Vous savez, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est disponible pour le croyant. En fait, lorsqu'on se convertit, l'Esprit de Dieu vient en nous. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours, ce qu'on fait reflète sa plénitude. Ça ne veut pas dire qu'on vit sa plénitude. Il faut encore continuellement se revêtir et lui demander de nous revêtir continuellement pour agir. Et tout à coup, quand quelqu'un agit par l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose de différent. Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez vécu une expérience où vous avez dit quelque chose que vous ne l'aviez pas planifié? Puis là, ça fait comme, « Ah! » Ça doit être l'Esprit de Dieu parce que je n'avais pas pensé à ça. Que l'Esprit de Dieu vous a rappelé un verset que vous aviez oublié, que vous n'avez pas planifié de partager avec quelqu'un, puis boum! Il vous rappelle, puis là, vous le partagez, puis là, tu vois le bien-être que ça fait à quelqu'un à un moment précis pour l'encourager, le soutenir, puis là, ça fait comme, « Oh! Ça ne venait pas de moi. » Et que c'est rassurant. Vous vous rappelez ces moments où vous avez une décision à prendre, dans l'incertitude, des doutes, et vous avez agi malgré tout. Et c'était l'Esprit de Dieu. Tu ne pouvais pas te vanter de tout ça. C'est Dieu qui l'a fait en toi. Tu le savais que toi, tu ne l'aurais pas fait. Tu n'aurais pas eu cette attitude-là. Tu n'aurais pas réagi de cette façon-là. Et quand ça arrive, ça rassure notre âme. Que je ne suis pas juste un disciple de Christ qui dit être un disciple, mais je suis un disciple de Christ qui vit aussi que l'Esprit de Dieu lui fait faire des choses. Et à mesure que le chrétien grandit, ce qu'il expérimente, c'est de plus en plus de proximité s'il grandit avec Dieu. parce que l'Esprit de Dieu a de plus en plus de place dans sa vie. Ça ne veut pas dire que ça évacue nos problèmes, que ça évacue nos luttes, mais on a tout ce qu'il faut pour passer à travers. Et le Nouveau Testament nous parle de se revêtir de sainteté, nous parle de revêtir les armes de l'Esprit, n'est-ce pas? L'épée, toutes les armes qu'on voit dans Éphésiens, d'être revêtu de justice. On est appelé, il y a toute une théologie d'être revêtu, d'être habillé de Dieu, de ce qui nous rend disponible pour réussir la vie chrétienne, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Il faut être revêtu de lui. Chose que seulement Christ peut faire dans nos vies. Juste avant de faire la conclusion, je vous partage depuis quelques semaines quelques vérités que Sam Albury a partagées dans une prédication que j'ai entendue il y a quelques mois en arrière sur les mutations qui se passent dans notre société. On a vu qu'il y a des mutations qui se passent, c'est-à-dire que, par exemple, l'intuition morale, naturelle, a changé dans notre société. Ce qu'on considérait mal avant est prononcé comme étant bien aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on considère quelque chose de bien et mal, ça s'est tout inversé. Il y a tout un système de valeurs qui a changé. On en a parlé de tout ça. Et c'est important pour nous de le comprendre, pour comprendre pourquoi autour de nous, c'est plus pareil. Puis comment j'interagis avec ces défis-là. Ensuite, on l'a vu aussi que la définition de la sexualité, du mariage a changé aussi. C'est pour ça aussi qu'on vit une certaine tension face à ce que l'Église peut dire. Et une autre chose, notre anthropologie a changé. OK, c'est un gros mot. Ça veut juste dire l'étude ou la science de l'humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre anthropologie a changé. Notre manière de voir l'humain a changé. Pourquoi? Par exemple, nos héros d'aujourd'hui ne sont pas les héros de guerre comme auparavant. Ce sont les gens qui se battent pour leur identité et dans l'adversité avec les gens autour d'eux, puis ils continuent, ça c'est des héros. La biologie ne compte plus pour l'être humain. Quand on prend une prise de sang, qu'on analyse ton ADN, qu'on vérifie, c'est plus ça qui est important, ce qui est scientifiquement décrit dans ton corps. Ça va être comment que tu te sens qui va être garant de vérité. On a changé notre approche de qu'est-ce qui est un humain et comment on évalue qu'est-ce qu'un humain. Et donc, c'est plus ton ressenti, c'est plutôt ton ressenti par rapport à toi-même et comment générer ton propre bien-être qui compte que le bien-être de tous, de ce qui est bien et mal, et de ce que c'est un homme, une femme. Tout ça a pris le bord. On a une nouvelle manière de regarder l'être humain. Et c'est intéressant, Jésus dit, il ne faut pas se fier à notre cœur. Il dit, le problème humain, c'est son cœur, c'est du cœur que viennent les problèmes. La société nous dit, ah, l'anthropologie humaine, c'est différent. Il faut que tu te fies à ton cœur, comment tu te sens, tes émotions, ton ressenti. Puis pour être heureux, fie-toi à ton ressenti. Si tu n'es pas bien là-dedans, va-t'en. Tu n'aimes pas ce travail-là parce que tu sens comme, va-t'en. Tu n'aimes pas cette relation-là, tu n'es plus heureux dedans, va-t'en. Ton bien-être, c'est important. Écoute-toi, sois ton écoute. Et c'est devenu toute notre science de qui est l'être humain. Puis qu'est-ce qui est important dans notre compréhension de l'humain lui-même? Ça a changé complètement. Et Jésus nous dit, mais c'est le contraire, il ne faut pas que tu te fasses ton cœur. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. En disant, non, écoute ton cœur. La Bible dit, le cœur est tortueux, il ne faut pas que tu te fies. Il est capable de tout twister la vérité pour la fabriquer, pour que tu te sentes bien dedans. Fie-toi pas à ton cœur. Mais la société dit le contraire. Il y a un shift complet sur qu'est-ce qui est l'humain et qu'est-ce qui est bon pour lui. Et il faut en être conscient pour dialoguer avec les gens et être capable de répondre à ce changement de valeur magistral que les gens vivent autour d'eux. Alors que Jésus dit que notre problème est intérieur, le cœur, mais le monde valorise justement de le suivre. C'est la valeur complète qui a changé. Maintenant, si tu comprends ça, ça va aider dans ton dialogue avec les gens, de trouver où est le mensonge et de ramener à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a à dire là-dessus? Et Marc, chapitre 7, a la réponse. Attention à ton cœur. Et si tu vas être choqué contre moi, bien, c'est Jésus qui l'a dit. Et j'aime beaucoup cette approche-là, ramener aux paroles de Jésus. Quelques pistes de réflexion en terminant. Nous sommes invités à se séparer du monde. Et je vous ramène au verset 25 et 26 où il y avait 5 verbes à l'impératif. Coupe l'autel, bâtis, sépare-toi, fais ça, fais ça. Il y a un appel que le Seigneur fait dans le Nouveau Testament de prendre sa croix et de suivre Jésus. Il y a des verbes à l'impératif que le Seigneur nous donne d'agir par la foi et de se séparer. Il y a peut-être des choses ce matin que le Seigneur dit, tasse ça, sépare-toi de ça, coupe ça, brûle ça, jette ça. Même pas de donner à quelqu'un d'autre, non, brûler. Il y a des choses qu'il ne faut pas donner. Et peut-être, Seigneur, donne des impératifs dans ta vie sur un domaine en particulier ce matin. Puis qui, comme pour Gédéon, il t'appelle à des choses, puis il te demande en même temps, j'aimerais ça que tu te débarrasses de ces choses qui te nuisent dans ta vie. La délivrance passe par un acte de rupture avec l'idolâtrie et un acte de restauration à l'adoration du seul vrai Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle ce matin? Que Dieu dit, je veux comme Gédéon que tu fasses le ménage. Tu ne seras pas capable tout seul, mais le Seigneur dit, je suis avec toi, vaillant guerrier, vaillante guerrière. Je suis avec toi. Et ce que tu as, agis avec ce que tu as. Moi, je vais m'en occuper du reste. Il ne te demande pas de faire des choses extraordinaires, mais il te demande d'obéir. Et comme Gédéon, de faire des choix qui, oui, peuvent être épeurants. Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Encore l'aspect de se laver, de se nettoyer pécheur. Purifiez vos cœurs. Et là, ici seulement, Jésus peut purifier ton cœur ce matin. Homme irrésolu, humain avec des doutes, en train de danser sur deux côtés de la lune, embêté, je vais-tu y aller, je vais-tu pas? Ah, il veut ça, mais ah, j'ai ça. Et là, purifiez vos cœurs. Il faut aller vers celui qui parle du cœur, celui qui peut guérir le cœur. Et c'est seulement Jésus qui peut faire ça. Seigneur Jésus est là. Il s'attend à ta prière. Il veut t'écouter, lui parler et lui mettre devant lui tes préoccupations, tes doutes. Il veut interagir avec toi. Je termine par ce proverbe qui dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui. » Avoir peur de Dieu, de respect, il a un appui fort. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Comment, dans cette génération-là difficile, se préparer pour passer à la prochaine génération, c'est là ici. De posséder un appui fort dans la crainte de l'Éternel. De craindre plus l'Éternel de lui désobéir que la crainte de comment les autres vont réagir. C'est ce qui a démarqué tous les hommes et les femmes de Dieu à travers les siècles qui ont accompli des gestes de foi. Ils ont avancé malgré la crainte parce que leur crainte de Dieu était plus grande. Et ça, les amis, pour ces enfants, c'est un refuge. De voir les parents faire ça. Ça favorise la transmission de la foi. Et sur ce verset, prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour Gédéon, un vrai homme avec des vrais doutes, qui ne se sentait pas à sa place, qui se sentait petit. Puis toi, tu aimes ça, prendre des gens comme ça. Tu prends plaisir, Seigneur, à prendre des gens qui ne se sentent pas à la hauteur. Tu veux des gens, Seigneur, qui ont peur. Tu veux des gens qui se considèrent petits, qui se comparent à d'autres et qui ne se trouvent pas à leur place. Tu veux des gens qui vont juste répondre malgré qu'ils ne se sentent pas à leur place et faire de grandes choses et des petites choses, des fois discrètes. Ce n'est pas à nous de choisir sur quoi tu vas nous appeler, Seigneur, mais c'est à nous, Seigneur, de répondre à ton appel. Qu'est-ce que tu m'appelles à faire, Seigneur? J'aimerais que mes enfants répondent, Seigneur, à ton appel. Mais est-ce que moi, je réponds présentement au défi que toi, tu me donnes d'avoir une plus grande crainte de toi que de l'extérieur, que ceux à mon travail, que ceux dans ma famille? Oh, Seigneur, réponds à nos doutes. Calme nos cœurs que, Seigneur, tu te soucies de nous. Que, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Que, Seigneur, tu vas prendre soin de nous en avançant. Et que, Seigneur, tu vas tenir tes promesses. Fortifie notre foi, on en a notre besoin, et nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.